nonobstant. Xavier Natav.
Ma recommandation du moment, c'est Aux origines de la pop culture, une traversée de près d'un demi-siècle dans la pop culture française. Une enquête passionnante et jouissive menée par Loïc Artiaga et Mathieu Letourneux. C'est en se reposant essentiellement sur les archives des éditions Fleuve Noir et des Presses de la Cité, une littérature populaire longtemps méprisée et délaissée, que les auteurs nous démontrent combien elles ont influencé et infusé dans la culture française durant les Trente Glorieuses. Formidablement illustré, ce livre nous plonge au cœur des romans de gare, histoire d'espionnage, de science-fiction et d'érotisme de l'après-guerre jusqu'au début des années 90, mais aussi dans les feuilletons radio et télé, les adaptations cinématographiques et la bande dessinée. Mathieu Letourneux.
Un de nos paris, c'était que finalement, quand on parle de la culture française, on s'intéresse beaucoup plus aux grands auteurs, aux grandes œuvres. Notre pari, c'est que ces romans qui étaient diffusés à 100 000 exemplaires pour les collections standards et puis pour les auteurs qui avaient le plus de succès à 170 000, voire pour Frédéric Dard à 600 000 exemplaires le roman, c'est des chiffres délirants, ces romans donc massivement diffusés, ils ont structuré, enfin ils ont contribué à construire les imaginaires de la France des Trente Glorieuses et donc à construire les sédiments de encore aujourd'hui probablement d'une partie des imaginaires contemporains. Le Fleuve Noir publie plusieurs dizaines de romans par mois et les auteurs du Fleuve Noir avaient pour beaucoup d'entre eux un rythme de croisière de 8 à 12 romans par an. C'était pas du tout extraordinaire pour un auteur de publier ces 12 romans par an. Et ce sont des vrais romans, hein, c'est pas des petites nouvelles, c'est des vrais romans. Celui qu'on a vu publier, écrire le plus de romans dans une année, c'est G.J. Arnaud, qui, l'année où il en a publié le plus, a écrit 24 romans dans l'année. Ce sont des rythmes vertigineux d'écriture. On peut dire qu'il y a un processus double, un processus d'industrialisation de l'édition, c'est-à-dire des protocoles tout à la fois de fabrication des livres, de rationalisation des rythmes de publication, rationalisation aussi de la distribution qui est très importante, où on vend les livres, comment on fait pour vendre le plus possible de livres partout dans les petites villes. Donc des processus éditoriaux qui s'industrialisent et en parallèle des logiques d'écriture qui s'industrialisent. Moi je parle à propos de cette époque de l'édition populaire de fordisme littéraire, c'est-à-dire qu'on a vraiment une rationalisation de toutes les étapes de la création, depuis la production des livres jusqu'à la création des romans eux-mêmes. On est vraiment dans la culture de masse, la culture de consommation et les industries culturelles.
Bien plus qu'une simple histoire de l'édition populaire, avec ses aspects les plus techniques, comme des questions de marché, de production, de public à toucher ou de publicité, c'est bien à travers ces livres bon marché que se forge, voire se reconstruit, une identité nationale de la France après les traumatismes de la défaite de 1940, de la collaboration qui s'ensuit et de la libération. Pourquoi ces œuvres, par ailleurs critiquées par la culture dite légitime, ont trouvé un tel succès ? Pour les auteurs Loïc Artiaga et Mathieu Letourneux, le succès de ces collections bon marché s'explique par la résonance avec les préoccupations de l'époque.
Littérairement, le modèle américain est très vite acclimaté à la culture française. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'on imite les romans noirs américains, la science-fiction américaine et donc les genres américains qu'on ne fait pas une œuvre les œuvres parlent réellement de la culture française. C'est-à-dire que ce qui intéresse les auteurs, c'est de séduire leurs lecteurs, et pour séduire leurs lecteurs, ils vont parler des transformations de la société française des Trente Glorieuses. Et ça, c'est vraiment très frappant. On imite un style américain, mais les romans sont écrits par des Français, pour un lectorat français, et ils parlent des transformations de la France et de l'Europe à cette époque. C'est quoi ? C'est l'équipement des ménages, qui prend la forme fantasmatique de la science-fiction, par exemple. C'est les transformations géopolitiques, la montée en puissance des États-Unis et de l'URSS d'une part, et puis la construction européenne d'autre part, qui sont de manière sous-jacente très très ce sont des questions qui sont très très présentes dans le récit d'espionnage. Et puis les transformations des mœurs, la libération sexuelle, la montée en puissance des contre-cultures, les transformations de la masculinité avec la libération de la femme, toutes ces questions vont nourrir le roman noir à la française. Et donc, en fait, ce n'est pas parce qu'on s'inspire des modèles américains qu'on ne fait pas une littérature qui est vraiment française et qui parle vraiment des transformations culturelles de l'époque. Alors ça, on ne parle pas de façon intellectuelle, hein, ce n'est pas des gens qui vont vous parler théoriquement de ces transformations, mais simplement, comme c'est une littérature écrite à la chaîne par des auteurs qui sont soucieux de séduire le lecteur, eh ben, intuitivement, ils vont évoquer des questions qui sont les questions qui nourrissent les médias de l'époque, les préoccupations des lecteurs de l'époque. Et donc, ce qui est fascinant dans cette littérature, qui n'est pas une littérature intellectuelle, encore une fois, c'est que malgré tout, on entend ou on reconnaît les questions de la société de l'époque, les préoccupations des lecteurs de l'époque, dans une version qui est une version très, très réactionnaire. Hein. Il faut bien dire que ce ne sont pas des auteurs qui sont très marqués par les idées progressistes. Hein. C'est toujours compliqué de dire, est-ce que ça illustre, est-ce que ça reflète les préoccupations ou est-ce que ça les construit? En fait, on peut dire que ça donne une forme lisible, et en donnant une forme lisible, bah, ça donne une forme, malgré tout, aux préoccupations. Et c'est pour ça que c'est vraiment quelque chose de fascinant, c'est qu'on voit bien que les auteurs se nourrissent de la presse, des discours de l'époque, et ils se disent, bah, tiens, on parle des hippies, bah, je vais faire un roman policier sur les hippies, on parle de la libération de la femme, bah, je vais raconter une histoire d'une fille qui est trop libérée et qui finit mal, ou des choses comme ça. Donc ils sont comme ça, ils se nourrissent de l'air du temps, mais en racontant, en donnant une forme narrative, en donnant aussi une solution, c'est-à-dire en disant en indiquant qui sont les bons, qui sont les méchants, ce qui conduit au crime, ce qui conduit pas au crime, eh ben, on donne une forme et on invite à interpréter la réalité d'une certaine façon. Donc on peut vraiment dire qu'ils illustrent les représentations du temps ou les préoccupations du temps, mais malgré tout, ils tendent à donner une lecture du monde qui va nourrir les imaginaires de l'époque.
Inspecteur! C'est moi qui ai descendu les filles, elles savaient trop de choses.
À quel sujet?
Dans deux jours, tout sautera, Beyrouth sera totalement volatilisé. Ce qu'ils ont mis au point est terrible.
Mais quoi?
Cet explosif.
Mais qui est le chef?
Je ne sais pas, celui qui m'a donné l'ordre d'abattre les filles avait une main, avec quatre doigts.
Mais qui est le chef?
On le désigne sous le nom du chef.
On a parlé de transmédia à la française. Ça a été une vraie découverte pour nous dans nos recherches parce que c'est des choses que personne n'avait vraiment regardées sérieusement. Et c'est à quel point tous ces auteurs qu'aujourd'hui on considère comme complètement ringards et à juste titre et qu'on considère comme extrêmement marginaux, tous ces auteurs ont été au cœur vraiment d'une culture médiatique non seulement française mais européenne. D'abord parce que les romans étaient massivement traduits dans toute l'Europe, et vraiment massivement, et ensuite parce que ces auteurs ont été adaptés dans tous les médias. Mais pas dans les médias, pas de la manière dont on l'imagine aujourd'hui, comme on adapte Marvel, comme on adapte dans des blockbusters les grandes œuvres littéraires. Non, là, c'est dans des petites coproductions franco-italiennes, dans des dramatiques radiophoniques qui sont des choses modestes, dans des romans feuilletons, dans des bandes dessinées publiées dans la presse. Donc c'est une sorte de transmédia, mais de transmédia du pauvre, qui correspond très bien à la mauvaise image qu'on a à l'époque des médias de masse. Et donc, bah, c'est pas très prestigieux d'être adapté par tous. On n'est pas encore dans le monde d'aujourd'hui où être adapté par tous, c'est le signe qu'on est quelqu'un de très important. À l'époque, on est adapté, ça ne rapporte pas beaucoup d'argent, mais on vit dans un monde qui est dans un monde médiatique déjà. Et ces auteurs, c'est tout à fait fascinant parce que c'est des auteurs qui sont très marginaux littérairement. Personne ne les considère comme des grands écrivains. Mais en revanche, ils sont assez centraux médiatiquement. Ils sont au centre d'une circulation médiatique qui est déjà celle du 21e siècle, enfin qui anticipe sur celle du 21e siècle.
Avec les changements de mentalité des années 70, l'avènement de la télévision, des jeux vidéo, les années 80 marquent le champ du cygne de ce genre littéraire. Les mutations de la culture populaire redéfinissent une nouvelle forme de pop culture dans un univers beaucoup plus mondialisé.
Les lecteurs populaires traditionnels, issus vraiment des classes populaires et des petites classes moyennes, ces lecteurs vont se détourner progressivement de la littérature. Ils vont regarder la télévision de plus en plus. Dès la fin des années 60, on voit que ce lectorat va déserter. Et puis dans les années 70, ça va s'accentuer et va se substituer à ce lectorat, un lectorat plus bourgeois, plus éduqué, disons celui des jeunes qui ont fait des études supérieures.
Signé Loïc Artiaga et Mathieu Letourneux, « Aux origines de la pop culture aux éditions de la Découverte » est un livre absolument fascinant et déterminant pour comprendre tout un pan de notre histoire culturelle nationale.
Oraviv, plus près de vous.